Xavier Denis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et stratégiste chez Société Générale Private Banking. On va parler avec vous de l'actualité économique et des perspectives sur les marchés. Comment vous avez vécu, je dirais, cet été? On a l'impression qu'on est à nouveau reparlé de ce qui ne va pas dans la zone euro, avec à nouveau des inquiétudes et puis de temps en temps des espoirs, notamment côté banque centrale. Est-ce qu'il faut s'attendre au pire, c'est-à-dire la récession qui est annoncée par un certain nombre d'indicateurs, ou est-ce qu'on peut avoir quelque optimisme en ce moment?
Alors effectivement, l'été a été plus calme et c'est présenté de meilleure façon que l'année passée, incontestablement, puisque les marchés d'actifs risqués, les marchés actions ont plutôt progressé, notamment le marché de la zone euro ont enregistré une bonne performance sur les 2 ou 3 mois écoulés. Alors, pour autant, je crois qu'il y a rarement eu de situation où il y a une telle dichotomie entre les indicateurs macroéconomiques en zone euro et le comportement des marchés financiers. Alors comment expliquer ce paradoxe en apparence? C'est que les marchés attendent effectivement beaucoup de la BCE, mais également aussi de la Fed. La BCE va être cette semaine au centre de l'actualité. On attend en quelque sorte que Mario Draghi et plus globalement le conseil de la BCE joignent les actes à la parole. Le discours de Draghi début juillet avait été en quelque sorte très rassurant puisqu'il avait dit que la BCE allait faire tout ce qu'elle devait faire pour préserver l'euro. Pour autant, on n'a pas encore vu grand-chose. Donc ça, c'est la grande question qui va continuer d'agiter les marchés cette semaine, mais sans doute encore au cours des semaines suivantes. Parce qu'il ne faut pas oublier que la crise de la zone euro, c'est certes une crise financière, mais c'est aussi pour une bonne part une crise politique. Et on attend naturellement la décision de la course de Karlsruhe en Allemagne, mi-septembre. Et il faut naturellement trouver un terrain d'entente entre l'Allemagne et, je dirais, le reste des pays en zone euro.
Donc on pourrait dire que les sujets politiques européens sont toujours là, les questions de fédéralisme, de politique effectivement plus coordonnée sont toujours là et qu'on avance à petits pas. Donc ce qu'on a eu peut-être de rassurant cet été n'est pas forcément pérenne.
C'est clair qu'on a des inquiétudes pour le reste de l'année pour deux raisons. Sur le premier plan qui est politique, comme vous l'avez rappelé, il y a effectivement un débat, je dirais, germano-allemand qui est assez vif. On voit bien un peu les lignes de clivage entre, d'un côté, la Bouba et une partie de la classe politique qui est de plus en plus réticente à financer en quelque sorte le coût de l'euro, ce qui peut apparaître comme un coût. Et puis de l'autre côté, une vision, je dirais, plus réaliste, plus pragmatique, qui est portée notamment par le gouvernement allemand et aussi par le membre allemand du board de la BCE. Donc ça, c'est le premier sujet politique. L'autre sujet économique qui me semble peut-être plus préoccupant que le premier, pour lequel on peut déjà voir se dessiner des progrès, en tout cas, c'est la conjoncture. La conjoncture se dégrade. D'une certaine façon, l'Allemagne, depuis 2 ans, était un peu sur un nuage, avec une croissance qui était repartie de manière extrêmement dynamique, largement tirée par la demande extérieure, notamment la demande des pays émergents. Aujourd'hui, les indicateurs sont en train de se retourner et se retournent très rapidement parce que l'Allemagne ne vit pas seule en Europe. Et donc, elle subit naturellement les effets de la récession dans le sud de la zone euro et puis également le ralentissement très, très marqué de la France qui va être à nouveau en récession sans doute au troisième trimestre. Donc, c'est clair que les indicateurs macroéconomiques sont une source d'inquiétude majeure. Rappelons juste un chiffre, le taux de chômage aujourd'hui est à 11,3% dans l'ensemble de la zone euro, c'est un plus haut historique et on voit mal comment il pourrait refluer avant sans doute plusieurs trimestres. Donc ça veut dire que la conjoncture économique et sociale va rester extrêmement, extrêmement difficile avec toutes les conséquences que ça peut avoir naturellement sur les profits des entreprises et éventuellement une remontée des taux de défaut.
Alors, si l'on sort un peu de cette zone euro et qu'on s'intéresse aux États-Unis, là, on a aussi pas mal d'inquiétudes à venir, en tout cas sur toujours sur ces questions de dette d'ailleurs. On a aussi des échéances politiques. Alors, est-ce que ça s'est véritablement amélioré aux États-Unis ou est-ce que là aussi on est dans une situation encore un peu entre deux, entre une vraie reprise et on pourrait pas dire une demi-reprise, mais on n'est pas encore véritablement sur une reprise en tout cas.
Alors, c'est une reprise qui est effectivement très, 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 très modeste, très molle par rapport aux reprises qu'a pu connaître l'économie américaine depuis l'après-guerre, hein. On est entre 1,5 et 2% de croissance. Deuxième trimestre, c'est 1,7% de croissance en rythme annualisé. Donc, c'est naturellement très faible. Il y a deux éléments qui sont quand même plutôt positifs. C'est la consommation a l'air de tenir, hein. Elle n'est pas extraordinairement dynamique, mais elle tient. Et puis, on voit quand même très clairement, les indicateurs le confirment depuis plusieurs mois maintenant, une amélioration sur la situation du marché immobilier, ce qui est un élément quand même de nature à rassurer. Alors là, il y a une question qui est évidente, c'est que va-t-il se passer sur la dette publique? On voit bien que le levier budgétaire a été utilisé au maximum par les États-Unis pour sortir le pays de la crise et du marasme économique. C'est ce qu'on appelle le fiscal cliff, c'est-à-dire en fait la falaise, le saut budgétaire qu'il faudra faire. Pour l'instant, on voit bien que le débat, la présidentielle américaine, a plutôt gelé un peu la situation. On peut penser, de toute façon, quel que soit le résultat des élections, qu'il y aura des mesures plutôt pragmatiques qui seront prises. Néanmoins, il est clair que c'est un élément qui va peser sur la conjoncture américaine et c'est pour ça que pour 2013, il est difficile d'imaginer une croissance supérieure à 2% pour tenir compte justement des mesures d'ajustement qui devront nécessairement intervenir.
Alors on avait eu jusque-là souvent le soutien des pays émergents et puis on voit aussi que du côté notamment de la Chine, alors il n'y a pas encore de plan de relance, hein, de plan de soutien, mais là aussi il y a eu effectivement des hésitations de l'économie et que la croissance chinoise n'est plus celle qu'on a connue au cours des derniers mois, au cours des dernières années.
Alors, le pilotage de l'économie chinoise est naturellement délicat. Il est clair que les autorités chinoises ne veulent pas se relancer dans un plan de relance comme elles l'avaient décidé fin 2008, début 2009, qui était un plan massif dont on commence à voir un peu les effets négatifs, c'est-à-dire l'augmentation des défauts, l'augmentation des prêts non performants détenus par les banques chinoises. Donc aujourd'hui, le pilotage se veut un peu plus fin, avec un assouplissement monétaire indéniable, hein, qui n'est pas nouveau, hein, qui date depuis la fin de l'année 2011, mais on voit bien qu'il tarde à produire en quelque sorte ses effets et une probabilité de plus en plus forte que la Chine rate en fait sa cible de croissance qui était de 8% pour cette année. Alors on ne pense pas qu'elle la rate de beaucoup, hein, elle sera sans doute entre 7,5 et 8, mais ça montre bien que la Chine aussi n'est pas complètement immunisée contre ce qui se passe en Europe et c'est d'ailleurs un des sujets qui a occupé les discussions entre le Premier ministre chinois et Mme Merkel lors de son déplacement au mois d'août en Chine. C'est clair que la Chine est inquiète de ce qui se passe en zone euro et que quand la zone euro est à croissance zéro, voire croissance négative, ça a des incidences sur les exportations de la Chine, bien sûr, mais plus largement de l'ensemble des pays émergents. On voit bien que le moteur extérieur ralentit de manière sensible.
Qu'est-ce que ça veut dire peut-être en conclusion sur la stratégie justement d'investissement dans cette période-là? Parce qu'on pourrait dire là, les actions ont pas mal performé alors que sur le plan économique, si on prenait la zone euro, c'était pas forcément le cas. Quelles sont un peu les évolutions pour, on va dire, faire face dans une période où il y a encore beaucoup d'incertitudes?
Alors, c'est clair que la bonne performance des marchés actions en zone euro aux États-Unis cet été doit inciter à prendre en quelque sorte ses profits incontestablement, notamment sur les valeurs les plus cycliques. Je crois que c'est l'occasion de le faire, en tout cas quand on a la possibilité de le faire. L'autre aspect qui nous semble important, toujours sur les marchés actions, c'est que les valeurs financières qui ont participé un peu au rebond devraient pouvoir encore bénéficier des mesures d'assouplissement monétaire qui devraient être décidées par la BCE, mais aussi à un moment ou un autre par la Fed, peut-être pas au troisième trimestre, plus probablement au quatrième. Donc ça, c'est favorable au secteur financier, à la fois côté actions et je dirais même de manière plus générale côté marché du crédit, marché des obligations privées. Et puis effectivement le discours n'a pas fondamentalement changé. C'est vrai que le marché du crédit dans un environnement de taux extrêmement bas est sans doute le marché pour lequel le rendement risque reste le plus le plus attractif. La seule chose, c'est qu'il faut être un peu attentif dans un environnement qui devient récessif en zone euro, à ne pas forcément prendre des risques trop élevés sur les obligations privées. Donc il faut ajuster le tir pour, en termes à la fois de maturité, en termes de profil de risque des émetteurs, par rapport à son objectif de rendement.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Xavier Denis. Rappelle, vous êtes donc économiste et stratégiste à la Société Générale Private Banking.
Merci.